Bonsoir à vous. Une saison au théâtre avec ce soir Grégoire Aubin et Marceau Deschamps-Ségura. Ils sont jeunes, ils sont déterminés et ils sont conquérants. Grégoire Aubin, auteur, 25 ans, et Marceau Deschamps-Ségura, acteur, 28 ans, s'apprêtent à prendre d'assaut le Festival d'Avignon et on ne voit pas bien ce qui pourrait leur résister. Depuis quelques années, ils ont uni leurs forces et conjugué leurs talents dans une même compagnie. Son nom, la Cité Furieuse. Voilà qui en dit long sur leur désir d'en découdre avec la société plutôt que prendre des coups. Ils en donnent, dans leur collimateur, la misogynie, l'individualisme, les injustices sociales, les dominants qui laissent peu de place à la marge. Ces deux-là ne sont pas en colère, par contre, ils aiment, c'est vrai, les états de fureur.
Bonjour tout le monde!
Bonjour!
Merci à tous! Merci à tous d'être venus aussi nombreux! Merci! Alors, mesdames et messieurs!
Grégoire Aubin et Marceau Deschamps-Ségura seront à Avignon dans le festival IN, accompagnés d'une trentaine d'acteurs qui sont actuellement en dernière année au prestigieux Conservatoire d'art dramatique de Paris. Ils les dirigent dans Juliette, le commencement, un texte qui retraverse les œuvres de Shakespeare au pas de charge. Un peu de Roméo par là, un peu de Hamlet par ici, là-bas Claudius, ici Othello, ailleurs Juliette, héroïne de cette épopée moderne qui brasse l'intime et le politique.
Donc si vous ne voulez pas être enregistré, partez. Parce que c'est pas négo, voilà. Mais s'il y en a qui veulent pas,
ne parlez pas.
Imiter une autre voix et du coup on se demandera qui c'est. Après ils trieront. On peut dire ce qu'on veut. Je pense qu'ils trieront. Et voilà. C'est pas du live brut magique sur la grandeur des arts narratifs.
Dernier étage du conservatoire, salle Claude Stratz, du nom d'un ancien patron du lieu, aujourd'hui dirigé par Claire Lanne d'Arcueil. Les acteurs répètent, ils sont assis en rond, ils se font face. Grégoire Aubin brief la troupe de comédiens. Marceau Deschamps-Ségura nous parle de Shakespeare, à l'origine de toute cette histoire.
Shakespeare, ça a été un peu le point de départ duquel on s'est beaucoup écarté, puisque le projet est né d'une recherche universitaire que je faisais sur Shakespeare et donc de l'envie de travailler sur ses pièces et les niveaux de mise en abîme et les personnages épiques qui sont dedans, et surtout l'idée de mélange entre savant et populaire dans ses pièces. Et en fait, au moment où je réfléchissais à mettre en abîme trois pièces les unes dans les autres, Grégoire m'a proposé lui-même d'écrire une pièce qui regrouperait plusieurs héros de Shakespeare et qui écrirait une nouvelle histoire à partir d'eux sur les problématiques qui nous sont chères, les problématiques les plus contemporaines.
Alors Grégoire Aubin, ça a été quoi votre travail d'écriture ? Parce que on n'entend pas forcément de scènes shakespeariennes. Par contre, il y a une flopée de personnages. Juliette, Othello, Claudius, Hamlet, il y a même Jeanne d'Arc qui apparaît dans une pièce de Shakespeare aussi. Mais vous vous êtes approprié ces personnages et vous les avez précipités dans votre propre texte. Comment ça s'est passé ?
On réfléchissait à, justement comme un reboot, quoi, parce que justement c'est ce qu'on fait.
Qu'est-ce que c'est un reboot ?
C'est ce qui se fait beaucoup à Hollywood, c'est reprendre un classique et le refaire à une sauce contemporaine. Et donc ce principe de reboot, c'est quand même quelque chose que j'affectionne chez Nolan, chez Christopher Nolan par exemple. J'aime ces reboots de Batman, justement, de prendre une figure très très populaire. Là quand même, il en a fait quelque chose qui est quand même acclamé globalement comme sombre, politique, très contemporain, sérieux, épique. Et c'est vraiment ce que j'aime comme art narratif. Et du coup, Marceau me parlait de Shakespeare parce que je connais très peu Shakespeare. Et en même temps de ça, on continuait à beaucoup aimer Batman ensemble et on s'est dit ce serait trop bien. Enfin, il faudrait une grosse pièce à la Batman, mais avec des personnages de Shakespeare. Les personnages féminins, parce qu'il a dit tout à l'heure, travailler avec les héros de Shakespeare, mais les héroïnes aussi, et voir surtout les héroïnes, dans une même dynamique aussi, de redonner la part belle aux personnages féminins, recréer les personnages féminins dans un répertoire qui est quand même machiste, quoi, ce qui est normal, qui s'inscrit dans une histoire, et etc. Mais le répertoire de théâtre est français et quand même shakespearien, bah, il y a quand même surtout des rôles d'hommes. Et j'aime bien ce côté, plutôt que monter un Phèdre de Racine parce que ça nous parle, cet archétype de femme qui nanana, autant écrire un personnage féminin qui nanana. Bah, je connais pas Phèdre, donc je suis pas capable de mettre mieux que nanana. Mais l'idée, c'est ça, c'est de... Des choses me parlent très probablement chez Shakespeare, parce que le peu que j'ai lu ou que je connais, c'est des choses quand même, voilà, de la trahison, de l'amour, de l'ambition, de, des personnages forts, etc. Ça me plaît, mais plutôt que monter Roméo et Juliette en appelant ça Juliette et Roméo, et voilà, pour faire être un peu féministe, et ben juste, on réécrit de A à Z, on garde les noms pour avoir une espèce de socle commun, un terreau culturel qui traverse en plus, enfin tout le monde connaît globalement au moins les noms Roméo et Juliette, c'est très peu excluant quand même, et on en fait quelque chose de contemporain, au sens de bah, qui traite de sujets effectivement contemporains, notamment politiques, parce que c'est vrai que ce qui nous tient le plus à cœur, c'est, enfin pour moi, tout art doit être narratif et doit être politique.
Attendez, pardon, je coupe, mais stop là. Othello a raison, c'est en train de partir en sucette, et c'est vrai que c'est pas très intéressant de voir une pièce sur la grandeur d'un état, d'un roi, ou je sais pas trop quoi, alors que notre ville a un sérieux souci à ce propos. Désolée les comédiennes, mais c'est pas possible, là. Cette femme, là, à côté de moi, je l'admire, parce qu'elle a ouvert chez moi une porte que je ne peux plus refermer. La porte qui montre les rouages du système. Oui, le système a un sérieux problème. Au début, je me suis dit, elle exagère, c'est trop radical. Mais ça n'existe pas, trop radical. Si notre objectif, c'est une société qui permet le bonheur, ça ne va pas être possible sans affronter très très sérieusement et très très vite toutes les oppressions. Et ça commence par les connaître, les démontrer, les dénoncer, les présenter sur scène et les démonter pièce par pièce. L'oppression est une maladie et on soigne radicalement les maladies.
Ce personnage de Juliette qui donne son nom au spectacle, Juliette, le commencement, c'est le titre, hein. Elle est au centre, et c'est un personnage qui connaît une évolution assez singulière, puisqu'elle passe de prolétaire, ouvrière, à reine, assez engagée. Donc, vous parlez de politique, vous avez fait allusion au machisme du répertoire, est-ce que la jeune génération dont vous faites partie, elle est féministe ? Marceau Deschamps-Séguras, est-ce que vous vous sentez féministe ? Et est-ce que vous vous sentez un devoir de ça, justement ?
Pour ma part, je trouve que c'est hyper important de réfléchir à ces problématiques-là, les problématiques sociales, les problématiques politiques, et que, pour moi, la scène de théâtre, c'est un espace public, et c'est un endroit où on va réfléchir à des questions qui concernent tout le monde, et donc, notamment, l'état du monde dans lequel on est. Et j'ai l'impression que prendre du temps de cette parole publique-là, ça implique une responsabilité forte. Et donc, oui, c'est hyper important pour moi de traiter ce genre de sujet, de mettre ces personnages-là sur la scène, et de faire, en fait, à mon échelle, autant que je le peux, puisque c'est une position un peu particulière aussi, d'être un metteur en scène homme, blanc, et donc d'être un peu l'incarnation de ce privilège qu'en même temps je dénonce d'une certaine manière. Voilà, c'est important pour moi, à mon échelle et dans la mesure où je le peux, de le faire.
Bref, avant j'avais un amoureux, Roméo, et quand Roméo rentrait tard le soir, même si j'avais passé toute la journée à l'usine à produire de la richesse pour quelqu'un qui ne soupçonne même pas mon existence et qui surtout s'en fout royalement, eh bien je faisais à manger à Roméo. C'était spontané comme ça, parce que ça me faisait plaisir, et que de toute façon, lui, il n'aimait pas faire à manger. Et puis quand il essayait, il en foutait partout, il rangeait mal les trucs, alors je lui disais de laisser tomber, et je faisais. Et sans raison, j'étais en colère, je n'osais rien dire, et je me demandais si j'étais pas folle. Mais je n'étais pas en colère sans raison, et je ne devenais pas folle. C'est juste que des choses plus grandes que moi étaient à l'œuvre, et que j'étais incapable de mettre des mots dessus. Roméo ne faisait pas à manger, non pas parce qu'il n'aimait pas ça, mais parce qu'il a été éduqué en mec. Et qu'étant éduqué en mec, il a été éduqué à ce que les femmes le servent. Et pour lui, c'est naturel. Et pire encore, pour moi aussi, c'était naturel.
On peut pousser les personnages shakespeariens où on veut, Grégoire Aubin, comme on veut. On peut en faire ce qu'on veut.
Oui, en fait on a le droit de faire ce qu'on veut tant qu'on fait ça pour le progrès social et l'avènement d'une humanité meilleure. Voilà, donc on... après ça, effectivement, chacun peut dire bah, moi je suis pas d'accord, pour moi c'est pas une société meilleure, enfin ça va pas vers une société meilleure de faire que Juliette est féministe et antiraciste, parce que c'est pas que féministe. Enfin, j'essaie de combattre toutes les injustices sociales qui écrasent des gens dans des oppressions, quoi. Donc j'essaie à ma mesure, donc au quotidien, être gentil, moi, enfin, tout, c'est pas très bien dit, mais voilà. Et par contre, comme disait Marceau, l'art narratif permet une parole publique, profiter de cette parole publique pour tenir le discours le plus progressiste, on va dire, possible, mais le plus progressiste au sens de mettre fin aux injustices. Le progrès, c'est mettre fin à terme aux injustices sociales et aux inégalités naturelles qui parfois provoquent des injustices sociales. Et du coup, profiter d'une parole pour donner une œuvre narrative à travers laquelle les personnages, justement, militent pour un progrès social. Et en théorie, par effet de miroir, les spectateurs et spectatrices se diront bah, carrément, c'est ça qu'il faut faire. Donc on a le droit d'utiliser, je pense, les matériaux qu'on veut, si c'est pour le bien commun.
Alors je vois que vous appréciez le théâtre. C'est beau de vous retrouver ici.
Non mais c'est bon, épargnez-moi les discours vaseux sur la culture qui fédère et qui unit le peuple sous la bannière des grandes valeurs monarchiques. Ce n'est même pas la peine. J'accompagne une amie. Vous pouvez garder votre théâtre de merde. Je ne suis pas votre caution.
Alors, faites tout de même attention, hein, Othello. Mon ancien mari, vous tolérez. Votre nouveau roi n'est peut-être pas aussi conciliant. C'est une menace.
Vous avez créé, tous les deux, Grégoire Aubin, Marceau Deschamps-Ségura, une compagnie qui s'appelle La Cité Furieuse. Titre intéressant. Est-ce que la colère vous anime ?
Alors la fureur et pas la colère. Et du coup, c'est la cité furieuse, ça a une double racine. Enfin, il y a la cité et furieuse. La cité, ça vient d'effectivement mon amour profond pour la société, c'est-à-dire un amour profond pour la notion même de société, qui selon moi, enfin je crois que je ne l'ai pas inventé, il me semble que Rousseau dit pareil, mais comme j'ai très peu lu dans la vie, j'ai peur. Mais le truc de l'humain a créé des outils pour dépasser la nature, parce que comme il n'avait pas de griffes, il invente des couteaux. Et je pense que sa meilleure construction pour survivre, ça a été la société, se former en groupe humain où on répartit les tâches, où on répartit les richesses de chacun et de chacune pour, enfin voilà, créer une société, c'est la meilleure invention humaine, je trouve, c'est le concept de société. Et du coup, enfin, le concept de cité, c'est ça, la cité, c'est au sens ce groupe social, ensemble mais pas fermé, qui se retrouve en cercle, enfin voilà, cet archétype un peu qui ressemble au théâtre, enfin, on rêve du théâtre où un jour le public se lèvera, dire je suis pas d'accord, et tout le monde joue enfin. Je crois que toutes les compagnies rêvent de enfin le public qui ose parler. Et Furieuse, ça vient de Mad Max Fury Road, parce que voilà, le personnage de Furiosa, enfin, pour moi, c'est un film féministe pour le coup, et tout le monde sera pas d'accord, mais pour moi, c'est un film féministe qui montre des personnages féminins variés, puissants, multidimensionnels, et même si on veut des hommes qui sont prêts parfois à laisser leur place, enfin, franchement, enfin, je trouve que c'est un film féministe, ou en tout cas un film très important. Et du coup, pour moi, j'aime beaucoup cette notion de fureur, qui est une colère légitime. Une colère face aux injustices, face aux crimes sociaux, et être légitimement furieux et furieuse de voir des choses mal se passer, alors que on pourrait les changer assez facilement.
Tu imagines comment ça serait perçu par le peuple ?
Mais comme un acte fort, bordel !
Mais comme un acte cruel, c'est cruel de faire
mais
ça !
Mais les gens veulent de la violence ! Ils rêvent de violence, alors je sais, je les connais mes sujets, faut pas croire quand même ! Alors je sais que c'est pas frontal, ils disent pas je veux de la violence, c'est caché, c'est subtil. Mais je les connais les gens, et les gens qui sont le plus proches de moi, ceux dont je respecte le plus la vie, nos frères, nos sœurs, machin, eh ben, ils en ont marre des clodos, ils en ont marre des migrants, ils en ont marre des pays voisins qui nous pompent notre fric, et puis ils veulent de la violence un peu bien de chez nous. Faut leur montrer qu'ils commandent à un moment, bordel.
Vous trouvez qu'un théâtre qui renoncerait à la colère ou à la fureur serait un théâtre mort, et peut-être que vous trouvez qu'il y a beaucoup de théâtres morts actuellement, Marceau Deschamps-Ségura?
Pour moi, il y a cette idée que voilà, c'est des personnes qui sont sur scène et qui s'épanouissent et qui veillent à ce que tout le monde puisse s'épanouir. Et cette chose-là, elle pourrait se faire indépendamment d'une politique au sens le plus strict pour le bien commun général et passer par l'épanouissement de l'individu même. Mais pour moi, c'est la responsabilité de l'engagement politique qui est le fait de prendre cette parole publique qui fait que il me semble hyper important d'avoir ces sujets-là qui sont traités. Et donc j'ai l'impression que c'est la rencontre entre deux nécessités qui fait ce qui pour moi me semble important à mettre sur scène, à avoir sur les scènes. Et donc d'un côté cette vitalité organique qui est le fait d'avoir travaillé une pièce, compris comment elle fonctionnait, travaillé avec des acteurs et des actrices, compris eux aussi c'était quoi les clés de leur épanouissement et comment ils pouvaient réussir à le donner à voir sur scène et à l'accomplir, et en cela être exemplaire dans une forme de recherche de son propre épanouissement, et du coup, à un sens un peu plus large, de chercher à transmettre cet épanouissement le plus possible. Pour moi, la vitalité, c'est l'épanouissement.
Le théâtre est donc un lieu de contamination du plaisir, de l'accomplissement de l'individu, et c'est l'acteur qui permet ça parce qu'il le communique au spectateur.
C'est ma vision, oui. C'est vraiment comme ça que je vois les choses. L'acteur est un vecteur d'épanouissement, puisque en travaillant à son propre épanouissement, il donne l'exemple, oui, par contamination, d'une perspective que chacun pourrait embrasser.
Pour la question du théâtre, est-ce que le théâtre est mort?
Est-ce que le théâtre est mort s'il n'est plus en colère?
S'il n'est plus en colère.
Non, c'était sa question.
Mais justement, je veux pas répondre, 25 ans, la jeune compagnie qui dit, le théâtre d'avant, c'est tout nul, les vieux, ils sont pas bons, enfin là, les trucs éternels. Justement, ma réponse, ce serait, je trouve pas que le théâtre est mort parce qu'il est pas en colère, je trouve que la nette majorité de notre société occidentale est morte parce qu'elle est pas furieuse. Du coup, le théâtre, on est victime, comme les autres domaines. Je trouve que l'art est particulièrement blessé parce que, pareil, j'aurais du mal à dire, vraiment faire la généalogie. Mais l'art en Occident a pas mal basculé dans une culture du fun, du second degré, a lâché une dimension politique. On entend trop faut pas se prendre la tête au théâtre ou au cinéma, alors que précisément s'il y a bien un endroit, enfin moi j'estime que l'art doit éduquer en divertissant. Voilà, c'est mon mini manifeste de l'art, c'est éduquer en divertissant, donc être narratif. Et du coup, forcément éduquer, le terme éduquer, et les gens sont très frileux à cette notion puisque question d'individu roi, on m'éduque pas, chacun ses goûts, j'ai mes propres choix, je suis pas défini par des trucs extérieurs. Et si, moi, j'ai envie qu'on embrasse, on est des produits d'une société, faut en être heureux et heureuse, et il faut se nourrir de ces productions narratives. Et donc voilà, je trouve que l'art a un peu subi ce goût pour le fun et le gratuit, enfin un peu le dépolitique. Mais je trouve que la tête de la société, légitimement, enfin pour elle, étouffe la contestation, ce qui se comprend, même si c'est pas juste, ça se comprend. Et donc le théâtre, on est victime comme le reste. Mais donc voilà, c'est pas le théâtre qui est mort parce qu'il est plus politique ou plus en colère. C'est globalement la société occidentale et son art. Et voilà, peut-être que le théâtre étant plus discret que le cinéma ou la télé, parce que il est moins sur Internet, il a moins de force de frappe, on sait moins ce qui s'y passe. Les gens qui s'y intéressent pas trop doivent vraiment le penser ankylosé, parce que ce qu'on en voit, c'est vrai, ce qu'on en voit ou l'image qu'on en a et qui est pas encore contrée par autre chose est un peu rétrograde et vieux jeu et tout, mais c'est probablement pas le cas. Je vais assez peu au théâtre, mais il y a plein de choses très politiques au théâtre à mon avis et très vivantes, mais peu, comme peu dans tous les autres domaines de la société, et c'est ça le problème.
Baby, you understand me now. If sometimes you see that I'm mad, don't you know no one alive can always be an angel? When everything goes wrong, you see some bad. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood.
France Culture,
une saison au théâtre,
Joël Gaillot.
On est à la fois un trio
dans une troupe de théâtre qui monte
en scène. Les comédiens du théâtre en abîme.
Et en gros, on ne peut pas se passer de faire le travail qu'on aurait dû faire.
De troupes et de frustration qu'on ne peut pas jouer.
De ne pas pouvoir le faire. Et donc, il faut quand même qu'on le fasse intégralement pour pouvoir jouer qu'on
ne peut pas le faire.
Mais pour ça, il faut qu'on... Mais oui, c'est marrant, mais on a vraiment du pain sur la planche.
Revenons au jeu de l'acteur, parce qu'il y a une méthode, elle est particulière. On peut l'entendre, il y a des acteurs qui ne comprennent pas parce qu'ils ont un manuscrit de 250 pages, pas loin. Il faut qu'ils apprennent tout, et vous leur dites, tu apprends tout, mais tu ne diras pas tout. Donc pour ces élèves qui sont en troisième année du conservatoire, ce n'est pas évident d'entendre ça, de l'accepter. Il ne faut pas qu'ils ressentent de frustration. Et c'est pourtant comme ça que vous fonctionnez l'un et l'autre. Méthode qui arrive plus ou moins en droite ligne de l'acteur studio tel qu'il a été importé aux États-Unis, qui lui-même était inspiré de Stanislavski en Europe, de la méthode de jeu stanislavskienne. Marceau Deschamps-Sigura, vous nous parlez un peu de cette méthode de direction d'acteur?
Alors, Donc l'idée là en fait de en effet cette masse de textes plus grande à apprendre que ce qui aura lieu sur scène, c'est l'idée en fait de nourrir chacun et chacune des acteurs et des actrices sur son personnage, d'avoir qu'il ait lui-même un personnage riche à interpréter sur scène, à comprendre, à travailler. Donc ça, ça passe par le fait de le travailler, de le traverser dans cette grande quantité de textes qui permet d'aller dans plein d'endroits foisonnants. Mais ensuite, l'enjeu essentiel de la scène étant de raconter cette histoire avec efficacité, en allant le plus directement possible à l'essentiel, vers l'action, mais aussi vers les spectateurs dans le même temps, eh bien, en effet, tout ce texte n'est pas nécessaire. Mais sa trace est extrêmement importante. Le fait de l'avoir appris fait que l'acteur, l'actrice, a intégré les nuances de son personnage, et donc, sur scène, travaille à être lui ou à être elle, à être en fait lui-même ou elle-même dans son rapport au personnage qu'il raconte, sans avoir à se dire, bon, il faut que j'emploie exactement ce mot-là parce que c'est là qu'est l'enjeu. C'est un peu décaler l'enjeu. L'enjeu n'est pas de dire les phrases, l'enjeu c'est de raconter l'histoire, c'est de raconter ses personnages, c'est de raconter en fait les idées qui sont derrière et qui sont incarné par les personnages. Les personnages sont chacun des positionnements politiques, des positionnements sociaux. Ils traversent des réflexions philosophiques sur leurs propres conditions dans la société et leurs conditions en tant qu'être humain à ce moment-là. Et donc, l'enjeu, c'est que les acteurs et les actrices aient pu s'imprégner de toutes ces problématiques-là, aient pu les ingérer, les digérer, vraiment s'en nourrir, se documenter encore à côté, pour pouvoir ensuite se livrer face à des spectateurs à leur propre réflexion sur ces sujets-là.
Le travail, en fait, c'est de façonner un personnage qui serait tout un univers, écraser cet univers, donc physiquement le rendre plus dense, et ensuite une pièce, une galaxie d'univers denses qui se côtoient, tournent en équilibre les uns entre les autres, s'harmonisent, parfois se percutent, et ça crée des gros problèmes, etc. Donc, plus il y a de la matière qu'on écrase, plus c'est dense. Et plus c'est dense, plus c'est fort, plus ça dégage de l'énergie. Enfin, on peut suivre cette métaphore. Et effectivement, l'objectif, c'est de dégager beaucoup, beaucoup d'énergie aux spectateurs et aux spectatrices. Et dans cette énergie, mettre des messages politiques et de l'éducation. Voilà, si toutes les oreilles sont légitimement ouvertes à quelque chose d'intéressant et de vivant, eh ben, on reçoit ce qui est dit. Et si ce qui est dit est pertinent, tant qu'à faire, enfin, tout se retrouve. Donc oui, il y a une volonté de s'éloigner du texte, parce que c'est mon texte, pas le leur, et j'ai confiance en eux et en elles. S'ils ont compris les personnages, ça me gêne pas qu'il et elle mettent leurs mots, entre guillemets.
Scène 17.
Cordélia, Macbeth, Gertrude.
Je vous préviens, je vais quand même vite en avoir marre du théâtre.
Ce n'est pas rien, Claudius. Le peuple aime beaucoup ce festival, ils attendent des gagnants.
Ah bah c'est eux les gagnants, voilà, hop, fin. On passe à autre chose.
Il faut tout voir, il faut les choisir intelligemment. Il y a peut-être des meilleures compagnies et des meilleures pièces.
Ton fils vient de niquer des phalanges entières de mon armée. J'ai vraiment autre chose à faire, tu comprends ?
S'il te plaît, tu t'occuperas des dangers extérieurs plus tard. C'est important que tes sujets soient heureux. Une révolte, c'est pire qu'une guerre.
Okay. Silence ! Il faut pas que je réfléchisse
en fait. Taisez-vous !
Quand ton fils vient de niquer des phalanges entières de mon armée, j'ai autre chose à foutre que de venir assister à un spectacle de merde.
S'il te plaît, tu t'occuperas des dangers extérieurs plus tard. C'est important que tes sujets soient heureux. Une révolte, c'est pire qu'une guerre.
Oui, bon, allez, ok. On y va. Voilà. Bah, ils sont où? Putain, mais ils sont où, les comédiens? Là, on va pas passer 3 heures à les attendre, merde.
Votre travail, c'est de comprendre les adresses. Faut bien comprendre qui s'adresse à qui. Faut suivre l'ordre logique, pas l'ordre textuel, quoi. Oui.
Mais en fait, tant que pour nous c'est clair ce qui doit être entendu à tel moment, nous on peut très bien. Voilà, on saura vivre à côté et puis voilà. Être.
C'est pour ça que la dernière fois je vous avais dit sur le dernier filage ou avant-dernier, ce qu'il faut rajouter maintenant c'est l'écoute. Il y en a déjà, mais c'est une plus grande. Parce qu'il y a déjà de l'écoute entre vous, devant je me nourris de ce que fait l'autre. Il y a cette écoute, mais il manque l'écoute. Je laisse l'autre parler.
Très bien, que je vais quand même en avoir ras le cul du théâtre là. Où est-ce qu'on s'assoit?
Là, sur le toit. C'est important, le théâtre, qu'on soit tous ensemble réunis.
peuple aime beaucoup le festival, ils attendent des gagnants.
Eh ben, on n'a qu'à dire que c'est eux les gagnants. Et puis voilà, hop, fin, on passe à autre chose.
Une dernière question. Je disais, on va pouvoir voir le spectacle au conservatoire à Paris, du 3 au 6 juillet, mais après, c'est Avignon, c'est le festival d'Avignon. C'est énorme, Avignon. Marceau, vous avez 28 ans, vous terminez votre cycle au conservatoire, parce que vous êtes encore, pour l'instant, élève au conservatoire, en troisième année. Grégoire Aubin, vous, c'est pas le conservatoire qui est passé dans votre vie, mais j'imagine qu'Avignon, ça résonne. Comment vous y allez, à Avignon? Vous avez peur? Ça représente quelque chose pour vous? Ça pèse dans vos têtes, le Festival d'Avignon? Jean Villard, Antoine Vitesse, Olivier Pic, qui est directeur aujourd'hui. Marceau, Jean Ségura.
Plutôt que peser, ça rayonne. Il y a un peu une aura de... voilà, c'est Avignon. En effet, il y a toute cette histoire-là qui est présente, ce bagage-là. Et ensuite, par rapport à Villard, là où c'est drôle, c'est que et dans l'esthétique de Juliette et dans cette mission qu'on se donne, il y a des recoupements qui sont très forts. L'idée d'un théâtre populaire et qui vise à l'éducation, on l'a dit, au sens noble du terme. L'idée de toucher des publics le plus vaste possible, le plus diversifié possible, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Et même, il y a presque des traits esthétiques qui reviennent, puisque pour permettre tout ça, on est allé vers un choix de plateau nu qui permette de jouer la pièce dans toutes les conditions, en y allant dès que c'est possible, dès qu'il y a une possibilité de le jouer, pouvoir le faire sans être freiné par quoi que ce soit d'autre. Et donc c'est assez drôle de se retrouver là au centre de cette aura-là, avec des missions qui sont en quelque sorte communes à celles d'origine de ça, sans à la base s'être dit on va faire ça pour ça, quoi. Ça nous est tombé dessus, et moi ça me touche énormément.
Et vous, Grégoire Aubin, ça vous parle, le Festival d'Avignon? Vous qui visiblement êtes beaucoup plus marqué par le cinéma que par le théâtre ou la...
Je veux pas être ingrat, mais c'est vrai que ça me parle pas beaucoup, le Festival d'Avignon, mais ça fait vraiment le jeune auteur qui est genre écoutez, moi je m'en fous, une cigarette au bec et tout, pas du tout. C'est vrai que ça me parle peu, ça me parle purement un peu comme ça aussi, médiatiquement. Enfin, je vois les autres rayonner, me dire oh, c'est fou, c'est important. Du coup, je reçois cette information et je dis bon, bah, si les autres ça leur fait plaisir, bah, moi aussi, du coup, parce que ça. Et je me dis que, enfin, moi, je vois juste ça pragmatiquement. J'estime vraiment avoir des messages politiques importants à faire passer via la compagnie et les pièces. Et donc, plus elles touchent de gens, bah, mieux c'est, vu que le but c'est d'essayer de changer la société, autant que faire se peut. Donc, tant mieux qu'on y soit. Et voilà, c'est pas trop à la sueur de notre front. Effectivement, on est via le conservatoire, c'est quand même une succession de chances et de... Bon, on n'a pas trimé des années pour y arriver. On nous l'offre, entre guillemets. Du coup, maintenant, on a une responsabilité de... Il y a des gens qui triment pour y aller. Nous, on nous le donne. Donc, il va falloir faire une bonne pièce et d'autres bonnes pièces, parce que sinon, c'est trop facile. C'est là aussi un petit privilège, quoi. De toute façon, c'est une trilogie, Juliette, donc ils sont obligés, a priori, de nous réinviter pour le 2 et le 3. Je sais pas comment ça marche.
Voilà, mais... Si Olivier Py écoute l'émission, ce que j'espère, il le sait. Il le saura.
Maintenant. Non,
je voulais aller voir
le costume,
c'est
une... Elle est fermée,
le
costume?
Ouais,
c'est fermé.
Ah,
c'est un chevalier ou...
Christelle. Non, Mali, elle doit être...
Bah, tu peux prendre la validité.
Ah, non, non.
Juliette, le commencement, mise en scène par Grégoire Aubin et Marceau Deschamps-Ségura, se joue au Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique à Paris du 3 au 6 juillet, avant de partir au Festival d'Avignon IN, où le spectacle sera proposé les 23, 24 et 25 juillet. Vous pouvez podcaster cette émission à la page Une saison au théâtre sur le site de France Culture. Marie Dalquier, Jean-Frédéric, Christophe Papon, Vanessa Nadjar, Joël Gaillot vous saluent et vous souhaitent une excellente soirée à l'écoute des fictions présentées par Blandine Masson.
Non mais moi j'ai pensé à toi.